9h40 dans le bureau de Par Jupiter.
Charline ?
Oui, fais vite parce que je travaille.
Ah bah madame travaille.
Oui, mais c'est important. Parce que moi, je voudrais savoir, Charline, pourquoi c'est toujours toi qui prends la parole en premier ?
C'est vrai, ça, pourquoi ?
Parce que c'est moi la personne de référence pour l'auditeur.
Quoi ? Pardon ?
Bah, c'est moi numéro 1.
Quoi. Ah non, moi je déteste la hiérarchie. Ouais. Hein,
bah, c'est comme ça, c'est les codes de la radio.
Ouais, ok, bon, alors si toi t'es numéro 1, moi. Alors,
toi, t'es mon numéro 2.
Attends, ça veut dire que moi je suis ton numéro 3.
Bah, un petit peu, ouais.
Et donc, Guillaume, c'est mon numéro 2 à moi.
Ah non, parce que là, ça n'a rien à voir.
Alors ça, c'est la meilleure.
Ah ouais, c'est la meilleure. Attends, moi je veux bien être numéro 3, mais alors Alex aussi dans ce cas-là.
Ah bah non, je suis numéro 2, je vois pas pourquoi je serais rétrogradé.
Ou alors, je suis aussi numéro 2.
Bon, si tu veux, Guillaume.
Non, s'il est numéro 2, moi je veux être numéro 1 ex aequo.
Ça c'est moi.
Ah ouais, mais je vais pas rester numéro 2 toute ma vie, moi je veux bien m'émanciper.
Moi aussi, peut-être un jour je volerai de mes propres ailes.
Tu seras numéro 1, 2, 3 toute seule.
Les garçons, ça va. Alors, notre invitée Ariane Massenet, oui, elle a été un excellent numéro 2 à Canal. Hein.
Quand Canal était encore Canal.
Sans elle, il n'y a pas de Super Fogiel et pas de Denis Aubryan. Alors,
Ok, t'es en train de nous dire que sans nous, t'es pas au top.
Ouais, c'est ça.
Mais t'es numéro 1 quand même.
Les derniers seront les premiers
dans l'autre réalité. Ah oui. Bonjour la France Inter, bienvenue à l'écoute de Fréquence Startup, dont voici la devise du jour. Brainstormera bien qui brainstormera le dernier. Devise qui vous est offerte par Hortense sur Twitter et on la remercie. 10 000 maires.
Vous sous-traitez les devises.
J'en reçois, je les cite. Les grands de la Startup Nation. 10 000 maires sont réunis en congrès en ce moment à Paris. Les élections municipales ont lieu dans 4 mois et c'est un problème pour La République En Marche parce que le jeune parti n'a pas d'ancrage local. Alors demain, le président ira à la rencontre des maires de France pour tenter de les séduire.
D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.
La présidente de France Télévisions impose des quotas de réalisatrices pour les fictions. Aujourd'hui, 82% des auteurs-réalisateurs sont des hommes. C'est pourquoi il sera sans doute difficile de leur expliquer la parité.
On partage à 3, 50-50.
Mais bien sûr.
50-50 à 3. Et oui, moitié.
Celle qui fut de tout temps anti-gaspillage et écolo bien avant l'heure, c'est Mémé. Les grands-mères qui reprisaient les choses et gueulaient quand les pluchures étaient trop épaisses, ce sont elles qui aujourd'hui sont la femme de la situation. Mémé avait raison. Et pendant tout ce temps, que faisait Pépé, me direz-vous ?
Il tire la chasse d'eau. Comment c'est, il tire la chasse d'eau ? Non, je comprends bien, il y a sûrement une raison, mais pourquoi tire-t-il la chasse d'eau ?
Je ne sais pas, on verra ça tout à l'heure. Parce que lui a opté en tout cas pour le compost autour de son bureau, principalement.
C'est l'écologie. Bonjour Charlie Delacar, c'est gentil de me dénoncer à l'antenne. Une belle équipe autour de la table, malgré vos sarcasmes, à 17h20. En grec ancien, son prénom signifie celui qui délie les chevaux. Et c'est vrai que les chevaux de son inspiration ne sont pas sanglés. Ils courent dans tous les sens. Monsieur Hippolyte Giardot.
Lâchez-les.
Lâchez-les. On va parler.
Eh ben, j'ai appris que le président avait été au cinéma.
Tout à fait.
Oui, c'est un sujet.
À 17h30, celui qui est de service public, ce qui explique sans doute pourquoi l'État veut s'en débarrasser, c'est vous, Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Eh ben, je suis allé demander aux Français ce qu'ils pensent des privatisations d'aéroports de Paris et de la Française des Jeux, et même pourquoi pas de Radio France. De moi.
Vous êtes dans la rue pour recueillir l'information auprès de gens compétents.
Exactement ça. Il a vraiment tout pigé. Bien tout résumé.
De votre vie. Et 17h40, celle qui tourne les pages de sa vie beaucoup moins rapidement que les pages des romans, c'est vous, Juliette Arnaud. Bonjour.
Bonjour Alex. Quel est votre peintre préféré ?
Oh, qu'est-ce que je vais répondre ? Monet.
Eh ben, c'est pas un livre sur lui.
Ça s'est joué à rien.
Moi, c'est Claude Guéant. Mais tout le monde sait.
Eh ben, c'est pas lui.
Et voici celle qui va co-animer notre open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. C'est une professionnelle, attention.
Attention,
vous êtes...
Ariane Massenet.
Oh là.
France Expiration.
Charline Vanunacker, Alex Vizorek.
Bienvenue Ariane Massenet.
Merci d'avoir invité.
Mais avec joie, on passe avec vous une heure et puis on passe avec vous une soirée si on veut au théâtre de la Scène parisienne jusqu'au 31 décembre dans une pièce intitulée Comme des sœurs, écrite et mise en scène par une certaine Béatrice Massenet.
Et ça s'appelle comme des sœurs.
Népotisme.
Il y a un petit truc quand même. Hein, tout
comment
ça
se fait ça avec également Alexandre Simon et Marie Parouti. Alors Alex Vizorek est allé vous voir.
Je l'ai passé cette soirée avec Ariane Massenet et ses copines. D'ailleurs, on me dit dans le bureau, est-ce que tu irais pas voir la pièce d'Ariane Massenet? Il y a encore quelqu'un qui a mal fait son taf ici. Il est pas préparé. Bien sûr qu'elle n'est pas comédienne, mais bien sûr que si, elle a changé. Alors moi je dis ok, je vais voir. Et alors je vous vois heureuse, je vous vois généreuse sur scène. Et je me dis mais pourquoi elle a mis autant de temps à y aller?
Oh.
Bah oui.
C'est vrai. Mais généreuse, vous... quand vous dites généreuse sur scène, c'est que...
Non, ça n'a rien de physique.
Ça n'a rien de physique, Ariane. D'accord.
Moi, je suis post-mito, moi.
Oui. Hein,
donc, non.
Mais on post-mito, ça n'a rien à voir.
C'est ça.
Non, mais vous avez l'air de vous marrer. Vous avez l'air évidente là-dedans. Oui. Pourquoi vous avez mis autant de temps à
C'est une bonne question. Mais je ne sais pas. Mais vaut mieux tard que jamais si on veut enfiler des perles et avoir des poncifs.
Peut-être l'appât du gain, vous aimiez l'argent avant.
C'est surtout ça. Et puis tout le monde sait, pour ceux qui connaissent bien le théâtre, que c'est très rémunérateur par rapport à la télévision. Le théâtre, est vraiment, il y a beaucoup de brousouf. En fait, je voulais faire ça quand j'étais enfant et puis on m'a dit non, mes parents m'ont dit non, c'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. Et donc j'ai vraiment mis ça enfoui dans le fond de ma poche et je me suis dit bon ben voilà, c'est pas grave, j'ai trouvé ça super quand j'en ai fait enfant, mais c'est pas forcément un métier. Et voilà, et il se trouve qu'on m'a proposé quelquefois des choses, mais je travaillais la télévision et je trouvais que c'était compliqué de faire la télévision du théâtre. Je me disais, ça fait un peu caprice, la nana de télé qui dit tiens, je vais faire du théâtre, alors que pour moi c'était un vrai métier, entre guillemets. Et donc, et quand ma sœur m'a proposé cette pièce, qu'elle n'avait pas écrite pour moi, je me suis dit, si je n'accepte pas une proposition de ma sœur, je n'accepterai jamais une proposition, j'aurai trop la trouille. Et donc voilà, je me suis lancée parce que c'était une histoire de famille.
Mais la télévision nous paraît à nous un métier où beaucoup de choses sont prémâchées, il y a beaucoup de gens qui vous préparent les choses, etc. Ouais. Il y a aussi un prompteur, outre tout le talent d'être à l'antenne, etc. Mais c'est radicalement différent du théâtre où là il y a une implication. Déjà il y a pas de prompteur et puis c'est soi-même quoi. Donc Pauline rigole.
Tu me brilles parce que tu me fais trop rire en disant et puis il y a pas de prompteur. Ouais. C'est qui est quand même pas le truc de base.
Enfin moi ça me semble une différence majeure, c'est que c'est alors, un prompteur ou un texte incarné appris travaillé au papier à cigarette.
Oui. Alors moi c'est ça que j'ai bien aimé et que j'ai découvert au théâtre, c'est le côté extrêmement artisanal. Moi mon principal flip, c'était la mémoire, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que j'avais pas trop l'appréhension du public parce que j'ai toujours travaillé sur des émissions en direct, donc et en public, donc j'avais pas trop cette trouille là, même si j'ai jamais fait ma maline.
Je vais vous dire maintenant, dans votre salle, il y a plus de monde que l'audience de Canal, donc. Vous voyez.
Oui. Non, mais c'est vrai. Ma trouille, c'était ça. Vraiment, ma peur, c'était la mémoire. Mais avec du travail, finalement, moi, j'ai une mémoire de porte-manteau, c'est-à-dire que je vais oublier demain que je suis venue vous voir. Non, j'ai vraiment une
question. D'où la question.
Oui, non, mais c'est pas complètement idiot. Mais ce que je veux dire, la grande différence, c'est que quand vous êtes en train de faire votre émission de télé, même avec un public, c'est pas un public qui participe de la même manière, quand même, qu'au théâtre. Et surtout au théâtre, vous êtes bien obligé de créer ce qu'on appelle une sorte de quatrième mur pour surtout que le public soit derrière celui-là. Que la télé, c'est toute la différence. Évidemment.
C'est-à-dire qu'en télé, on s'impose aux gens. Après, les gens peuvent zapper, mais on s'impose aux gens. Donc, il y a un rapport qui est... Il ne faut pas penser, quand on fait de la télé, se dire « Oh là là, mon Dieu, il y a des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de téléspectateurs qui nous regardent. » Au théâtre, les gens font la démarche de venir vous voir. Donc, ils ont, au départ, une sorte de bienveillance. Après, ils aiment ou ils n'aiment pas ce qu'ils ont vu. Mais en tout cas, ils sont complices de ce qu'ils viennent voir. Donc, moi, je me suis construit, comme vous parlez de ce mur, parce que j'avais qu'une trouille, c'est de voir les gens, de jouer en même temps de voir les gens. Et très vite, je les ai oubliés. Je ne les ai pas regardés. Je les ai regardés simplement à la fin, au moment de saluer. Et puis, je ne sais pas, non, mais moi, j'ai adoré cette expérience. Et j'adore toujours cette expérience.
Je peux peut-être raconter un tout petit peu l'histoire pour donner envie aux gens. C'est-à-dire que c'est Isa, Lolo et Marion, trois femmes d'une cinquantaine d'années, qui se retrouvent annuellement. Parce que c'est les amis d'enfance, elles ont envie de se raconter leur vie. Et il y a l'ombre d'une amie disparue. Ici aussi, il y a quelques révélations sur l'une qui se ferait tromper, tout ça, que les autres, ça, elles sont au courant, voilà. Et tout se délie au fur et à mesure de la pièce. C'est trois types de femmes différentes. Il y en a une qui est productrice dans les médias, il y en a une qui est un peu au crochet de son mari, et il y en a une qui est provinciale, qui fait du vin. Vous êtes celle-là.
Oui.
Est-ce que c'était l'évidence que vous soyez celle-là et pas, par exemple, la productrice de télé dans les médias?
Mais ça aurait été un petit peu tiré par les cheveux, un peu capillotracté, quoi. Ah, bah, tiens, la ancienne fille de télé, ah bah, elle joue une productrice de télé, c'est marrant. Non, ça aurait pas été marrant. Donc, du coup, non, en fait, ma sœur, elle n'a pas écrit la pièce pour moi, parce qu'il y a eu d'autres comédiennes qui ont passé le casting. Et quand elle m'a dit, écoute, moi, j'aimerais bien finalement que tu fasses partie de l'aventure, choisis le rôle qui te correspond le mieux. Et j'ai choisi peut-être celui qui me semblait le plus facile.
Pas sûr.
Bah parce que le côté un peu provincial, patrimoine, la fille qui aime bien la bonne bouffe, qui aime bien rigoler, qui est toujours de bonne humeur, je me disais que ça se rapprochait plus de moi et que ça me semblerait plus facile, en tout cas, d'interpréter.
Ça s'avère que c'est elle qui a le plus lourd secret.
Et oui.
Sous le manteau, mais et ça, si vous le je raconterai je pas.
Je vous gifle.
Eh ben, bien sûr que
je
vous gifle. Vous voyez, quand j'ai. Là, il y a du suspense. Ah, là, les gens, ça réserve sur Bire Éduc.
Comme des sœurs, donc, Ariane Massenet, écrit et mis en scène par sa sœur, Béatrice Massenet, avec Alexandra Simon et Marie Parouti. C'est donc au théâtre de la Scène parisienne jusqu'au 31 décembre. Pour l'instant, est-ce que vous savez déjà si vous allez aller en France ailleurs?
Oui, c'est prévu.
Oui.
Et ça, je suis très 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 curieuse de voir comment ça se passe. J'aime bien ce côté Tour de France. Tour de France, aller voir les gens, aller voir le public, aller en province, bouffer avec le maire.
C'est ça. Manger, boire, surtout.
Ouais, c'est ça. Oui. Le maire. On va en parler justement. Vous allez bouffer avec le maire. On va en parler. Ariane Massenet avec nous jusqu'à 18h pétante. C'est France Inter.
Bien sûr,
sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter, dont l'invité du jour, c'est Ariane Massenet. Ariane Massenet, mais qui joue au théâtre. Théâtre de la Scène parisienne, comme des sœurs. Alex, pour entourer Ariane.
Eh bien, la fameuse Juju, hein, qui connaît Louride, il s'agit de Juliette Arnaud. Il y a aussi Guillaume Meurice et Hippolyte Girardot.
On passe à la formation?
Oui, on est prêts.
Oh, on aime ça.
Parce que les humoristes d'aujourd'hui, qui usurpent ce nom, si vous voulez, leur rire est une matraque, c'est des cartes chures du politiquement correct.
Le journal de presque 17h17.
aurez reconnu Guillaume Meurice. On commence par les titres.
Le journal du dimanche révèle que le mois dernier, Nicolas Sarkozy a rencontré Carlos Ghosn au Japon.
Oh là là, une scène qui réunit Sarkozy et Ghosn pour les amateurs d'affaires judiciaires. C'est comme Federer-Nadal pour les amateurs de tennis.
La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a jugé fort stupide les propos de Finkielkraut sur le viol.
Et c'est bien la preuve qu'ils étaient fort stupides, parce que c'est une spécialiste en la matière qui le reconnaît.
Il y aura des brèves.
Et bien sûr, en la série fort stupide, je pense qu'on peut pas se passer des brèves. Mais avant, évidemment, la politique française.
Oui, bien sûr, le ministre de l'Agriculture annonce le lancement d'une mission sur l'abandon des animaux de compagnie.
Et oui, une mission lancée après qu'Emmanuel Macron ait dû abandonner son petit Benalla.
On reste à l'Élysée, car Hippolyte va en parler tout à l'heure. Après avoir vu le film Les Misérables de Lajli, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de se dépêcher de trouver des idées et d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers.
Attention, le jour où il va se mater un porno, il va demander au gouvernement de se dépêcher de trouver des idées pour agir, pour faire en sorte que les plombiers qui sonnent chez les femmes seules viennent vraiment réparer les fuites d'eau.
À gauche, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a dit craindre la disparition de la gauche.
Eh oui, Olivier Faure, c'est le mec qui débarque à un enterrement et qui demande si le défunt se porte bien.
Administration maintenant, car selon l'Observatoire de la dématérialisation, 69% des démarches administratives sont désormais réalisables en ligne.
Eh, pas de chance, maintenant qu'il a soigné sa phobie administrative, il faut espérer que Thomas Thévenoud ne développe pas une phobie numérique, sinon c'est refoutu.
À l'international, dimanche, le pape a déjeuné avec 1500 pauvres au Vatican et au menu, il y avait des nuggets de poulet.
Avec tout le pognon qu'a le Vatican, on a pu en faire autre chose qu'un KFC. Enfin,
oui. Justice, le parquet de La Rochelle a identifié 250 victimes potentielles de faits non prescrits du docteur Le Squarnec.
Oui, attention, parce que...
Alors, le docteur Le Squarnec, un ex-chirurgien accusé de viol et d'agression sexuelle.
Attention.
Mais quoi ?
Il faut séparer l'homme du chirurgien. Il fait des super pontages quand on n'a rien. Oui, mais non.
Sport, on va parler de la VAR.
Ah, vous savez ce que c'est la VAR ?
Bien sûr, c'est assistant vidéo de l'arbitrage, bien sûr. Oh, putain, donc, pour Michel Platini, la VAR est, je cite, une belle merde.
Oui, sauf qu'avec la VAR, à tous les coups, il y aurait une carte rouge sur Batiston. Et t'aurais peut-être gagné une Coupe du Monde, mon pote.
Allez, à Marseille, une fusillade à la Kalachnikov a fait un mort et cinq blessés.
Oui, si la série Plus belle la vie était réaliste, le réalisateur ce serait Quentin Tarantino.
Et des brèves ?
Oui, bien sûr. Ah. Des salariés ont accusé Pernod Ricard d'inciter ses commerciaux à boire sans modération. Bah, qui s'estiment heureux, ils auraient pu bosser pour une boîte de laxatifs. Et la dernière, vous a concerné celle-là ?
On ne peut pas rester là-dessus. Non,
J'ai bien sûr mieux. Des sangliers, des terres, 20 000 euros de cocaïne cachés en forêt par des dealers. Oui, Pierre Palma a décidé de tout plaquer pour se lancer dans la chasse aux truffes.
Je précise quand même, des sangliers italiens.
Ah, le gars est pointu sur la brèche.
Oui, bah c'est pointu, Cyril Sanglier.
Il est 17h25 à Pau. C'est spécial dédicace pour Ariane Massenet.
Merci.
Et on va parler maire. Vous êtes impatiente d'aller dîner avec le maire lors de la prochaine tournée de la pièce de théâtre Comme des sœurs. Oui. Parlons-en, le maire est l'élu préféré des Français. Et les municipales ont lieu dans 4 mois. Alors cette année, le président de la République se rendra au congrès des maires de France qui s'est ouvert aujourd'hui. On y trouve beaucoup d'élus découragés, mais aussi beaucoup qui se représentent sans étiquette. Allons voir comment ça se passe chez l'un des quelques maires qui revendiquent haut et fort l'étiquette LREM. Il n'y en a pas des masses, hein. Ils ne sont pas nombreux puisque le parti manque d'ancrage local, sauf pour un candidat du type, je dirais, Benjamin Griveaux à Paris par exemple.
Envoyez mes lasers. Brive à 15h, débrief au QG à 16 et apéro à 17h.
11h, ça marche. Étienne Martin, le candidat de la République Ça Marche, fait son entrée.
Vous allez commencer par les one-to-one à la charcute. Ensuite, vous emmenez les électeurs step by step au touchpoint, à la fromagerie. Ça marche ?
Ça roule. Ça marche.
Écoutez, non, je dirais que nous n'avons pas de méthode particulière à la République Ça Marche. Nous sommes surtout à l'écoute du citoyen.
Il faut faire quelque chose pour la sécurité.
Hein. Oui, ça marche. Il faut être attentif.
Et surtout, arrêter de taxer les
Ça marche. Il faut entendre les revendications.
Vous m'écoutez pas.
Ça marche. Et à ce moment-là, nous serons là pour y répondre.
Je vais me taper votre femme, je reviens.
Oui, ça marche. Et ensuite, nous aurons un vrai résultat dans cette mairie. Voilà.
J'y vais avec des potes. Hein.
Ça marche. Allez-y avec des potes.
Le palmachot. On aurait tellement aimé écrire ce sketch. Alors, Ariane Massenet, quand vous présentiez, co-présentiez avec Michel Denisot le Nulle Part Ailleurs, ça s'appelait
Le Grand Journal.
Vous avez reçu pas mal de politiques. Oui. Vous continuez à vous intéresser à cette matière-là, de manière différente aujourd'hui?
Bah oui, de manière différente, parce que je lis moins leur biographie et tous les verbatims qu'ils ont pu sortir. Mais non, je continue à m'intéresser. Alors, je suis un petit peu moins excitée, si je puis dire, par effectivement les politiques de La République En Marche, parce que je les trouve un petit peu moins rigolos, un petit peu moins d'aspérité. Ouais. Mais j'aime toujours cette matière. J'aime pas du tout les gens.
Passé une soirée avec Stanislas Guérini, c'est déclaré. Alors là,
ça sent le connaisseur. Vous avez passé une soirée avec lui.
Ariane Massenet, sur son plateau, elle avait reçu Tony Blair quand même.
Ah ouais, c'est autre chose.
Ça, lui, vous excitait, Tony Blair.
Ah bah oui. Non, mais c'est quand même génial.
C'était Macron avant Macron, en fait. C'était la troisième voie il y a 30 ans, la social-démocratie.
C'est vrai.
Carrément ça.
C'est vrai. Mais c'est génial de pouvoir rencontrer des gens comme ça. Alors évidemment, c'est sur un temps très court. On aimerait passer plus de temps avec eux. Mais moi, je m'intéresse toujours à la politique. J'aime pas du tout la façon dont les choses se passent sur les réseaux sociaux entre justement les hommes politiques et les gens qui tweetent et qui insultent assez facilement les hommes politiques.
L'invective, ouais.
Voilà, j'aime pas trop l'invective, j'aime pas trop les polémiques à retardement et surtout incessantes. Mais en revanche, je m'intéresse toujours à la politique.
Ouais. Le maire, c'est l'élu préféré des Français.
Mais ça m'étonne
pour
pas.
Pour vous aussi, ouais.
Oui,
ouais.
Ça m'étonne pas. Alors, je parle pas de celle de Paris, forcément, mais en tout cas, non, mais dans les petits villages, à la campagne, moi j'aime bien la campagne. Ouais.
Vous avez un ancrage local hors de Paris?
Oui. Oui, dans le Perche.
Ouais.
Et effectivement, moi, je suis dans une commune qui a 200 habitants. Et j'ai un maire qui est absolument génial, qui est sur tous les fronts. Et qui, chaque fois, me dit, ah non, ça, c'est la dernière année. Ça, non, mais alors là, non, mais moi, vraiment, c'est la dernière année. Et je l'ai revu au mois d'août. Je lui dis, alors, je suis désolée, c'est la dernière année. Il me dit, non, j'ai changé d'avis. Non, je vais me représenter. Voilà, c'est des gens
c'est
qui.
C'est quoi les problématiques, par exemple, dans le village où vous êtes, dans le Perche, et auquel il est confronté? Est-ce que ça se passe bien avec lui?
Alors, ça se passe extrêmement bien avec lui. Il est sans étiquette. Mais lui, c'est des trucs du quotidien, en fait. C'est vraiment le quotidien. Moi,
la brume.
Hein?
La brume.
Oui,
ça peut être. Dans le Perche, c'est la brume.
Non, ça peut être. La sécheresse. Moi, j'ai une petite fissure sur ma maison. Il est venu me voir en disant, mais je pense que c'est la sécheresse. Alors, bon,
donc,
voilà.
Est-ce que vous comprenez ce décalage entre Emmanuel Macron et son parti qui est très jeune et qui n'a pas d'ancrage local, qui semble très parisien, très centré et très, finalement, dans sa tour d'ivoire, et la figure de l'élu local qui, lui, est vraiment au contact des gens, au contact de ce qu'il y a de plus concret dans la vie en réalité?
Oui, parce qu'ils sont vraiment, encore une fois, ces petits maires, ces petites, enfin ces petits maires, non, c'est pas des petits maires, mais en tout cas ces petites communes.
Maires de
sont,
petites communes.
Ouais. Maires de petites communes, c'est mieux dans ce sens-là. ils sont vraiment dans le quotidien et je pense que ce parti qui est plus ou moins récent n'a pas effectivement d'ancrage local et donc ils n'ont pas, enfin je pense que l'étiquette n'a pas d'intérêt dans les petits villages. Ouais. Moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'un maire de socialiste ou de droite dans une commune de 200 habitants, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça peut avoir un sens sur les quotas, de savoir s'il y a X pourcentage de gens de gauche qui sont passés ou X pourcentage de gens de droite qui sont passés, mais ça n'a pas de sens au quotidien.
Ouais. Les préoccupations dans les partis au niveau national, etc., sont bien éloignées.
Exactement. Et puis souvent, ces petites communes, souvent, sont abandonnées par l'État. Elles se gèrent toutes seules.
Ariane Massenet 2022. Allez, c'est parti.
Oui, votez pour moi.
On en trouve beaucoup des présidents dans cette émission, je trouve.
Oui.
Est-ce qu'on irait faire un tour du côté de l'Élysée avec Hippolyte Girardot?
Pourquoi pas.
Ce serait ça l'idée?
Ouais, ça pourrait être l'idée. Je voulais juste vous prévenir, voilà, dans deux jours sortira le film Les Misérables de Lajli, prix du jury au Festival de Cannes 2019, qui met en scène avec une autorité de maître du 7e art un trio de policiers de la BAC dans les rues de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Une petite commune. Bref, une histoire très forte, écrite par Lee après avoir filmé une bavure policière en 2008. 11 ans, quand même, hein. Il a dû avoir du mal à trouver des drons, ce réalisateur. Alors moi, j'ai eu de la chance de le voir en avant-première, c'est le privilège de mon premier métier. Voire du second, en fait, peut-être maintenant, grâce à Charline. Hein, c'est comme Maurice, son second métier, c'est conférencier au MEDEF. Bon, conférencier à l'extérieur de la salle, mais quand il n'est pas là, il se demande où il est, voilà. Bref. Le film mérite absolument tous les qualificatifs de la presse, la claque, le coup de poing, le choc, le coup à l'estomac, même si on peut s'interroger sur la métaphore de la bagarre dans le langage de cette critique majoritairement blanche et bourgeoise. Probablement un retour du refoulé. Mais c'est une autre affaire. Parallèlement, enfin, moi personnellement, en tout cas, je trouve le film très subtil dans sa construction scénarique, très soucieux de renouveler la thématique tarte à la crème de films de banlieue, très responsable dans sa façon de distribuer les personnages, leurs enjeux, leurs questionnements, leurs rôles, dans un théâtre social si compliqué qu'il en paraît indémêlable. On dit souvent à tort, pour faire, comment dire, spectacle, que la banlieue c'est le Bronx, pour en stigmatiser la violence, mais on devrait plutôt dire Beyrouth, pour en relever la complexité. Policiers de la BAC, voyous, enfants déscolarisés, grands frères corrompus, autorités religieuses qui mettent quand même la pression, tout le monde est prisonnier d'une zone à 15 km de Paris, mais qu'on met 1h30 à rejoindre en transport en commun, autant qu'un aller Paris-Deauville en Audi A4. Voilà, et cet éloignement est un acte manqué de l'élite pour se protéger, évidemment. Lajli possède une telle maîtrise qu'il réussit à la fois à saisir ce réel qu'il connaît absolument par cœur et à écrire un scénario qui mette tout ça en perspective. Il en fait un spectacle très émotionnel, sans putasserie, et c'est à noter. Et hier, je lis Emmanuel Macron...
Introduction de chronique.
Non, ça marche.
Oui, je dirais proportionnellement bien dosé.
Non, mais c'est bien parce que tu as remarqué que j'aimais beaucoup ce film.
Oui, ça, ça, on l'a senti.
Et que je trouve ça important qu'on en parle.
Et c'est vérité.
Et qu'on aille le voir, surtout.
Oui,
bref.
Poursuivez.
Et je n'ai aucun intérêt particulier, bref. Mais hier, je lis que Emmanuel Macron était sorti de la projection donc des Misérables, bouleversé par la justesse du film, et a demandé au gouvernement, comme vous le disiez, de se dépêcher de trouver des idées et d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Alors merde, ça, c'est ça le choc, c'est ça la claque, le coup de poing pour le coup, c'est le président qui sort du cinéma. Allez, des idées, bon sang, de l'action, améliorez-moi ça, ces quartiers. Oh bah heureusement qu'il y a Lajli qui a fait un film, bah, moi sinon comment je serais au courant? Vous croyez que c'est facile qu'on vient du Touquet pour savoir ce qui se passe en Seine-Saint-Denis? Moi je croyais que Victor Hugo il avait écrit Les Misérables, Place des Vosges, j'apprends qu'il l'a écrit à Montfermeil. Alors moi je veux des idées les gars, de l'action, pour la vie des quartiers. Oh bah dis donc, moi je pense alors que le président devrait aller au cinéma plus souvent parce que les sujets sociopolitiques ça fonctionne bien en ce moment. Des conseils, bon bah par exemple, la paysannerie, son taux de suicide plus qu'alarmant dans Au nom de la terre avec Guillaume Canet, la vie scolaire de Grand Corps Malade qui se déroule aussi en Seine-Saint-Denis, c'est pas très loin, et qui témoigne d'un délitement de cette ville-là, justement, sans oublier, monsieur le président, des films passionnants sur l'origine de la crise des gilets jaunes, le harcèlement sexuel ou encore le réchauffement climatique. Vous nous demandez, on vous fait la liste, mais franchement, arrêtez votre cinéma.
Hippolyte Girardot, qui en plus a fait une chronique un peu cinéma. Et ça, je pense,
oui,
on est le 18 novembre. Nous sommes le 18 novembre 2019. Notez bien cette date.
Toute œuvre d'art est un football.
Merci Hippolyte Girardot, merci. C'était un plaisir de vous écouter. On peut vous réécouter en podcast, bien sûr, ou sur franceinter.fr, ou en vidéo, évidemment.
Minouche, ma minouche. Tu te fâches, ne prends pas la mouche, ma jolie peau de vache. Quand la foudre te touche, un petit rien t'échauffe. Pour une escarmouche, la colère te fauche. Le reste on s'en fiche. À quoi bon le clash si personne ne triche? J'aime le rouge qui tâche quand il sort de ta bouche. La jolie ganache, tes airs de manouche. Sous-titrage Société Radio-Canada.
gouche. Et pourquoi tu t'arraches? Et puis qu'est-ce qu'on s'en fiche du moment qu'on s'en tiche? Minouche, donne-moi ta bouche. Minouche, ma minouche.
Du dernier album de Rachita, ça s'appelle Minouche et c'est beau comme tout. Sur France Inter, programmation musicale, le fameux Djoubaka, ah, bien sûr.
Minouche et c'est beau comme tout. Ouais. C'est joli ce que vous avez dit.
On est bien là.
On est bien, bien avec Ariane Massenet là, on est bien. Alors, oui, alors pour les auditeurs,
faut leur dire.
Il l'a dit, Madame Hippolyte, il l'a dit. On a maintenant un bel écran, un très bel écran dans ce
dont
studio.
On ne savait que foutre.
Et on a mis une vidéo de feu de cheminée.
Voilà. C'est très agréable. Ouais.
Donc, si génial. Vous regardez en streaming sur franceinter.fr, vous voyez le studio qui a un grand feu de cheminée. Ça va vous réchauffer chez vous aussi. Et si vous ne l'avez pas, on réchauffe vos oreilles. En compagnie d'Ariane Massenet, qui est au théâtre de la scène parisienne en ce moment, dans Comme des sœurs, pièce écrite et mise en scène par sa sœur, Béatrice Massenet. Et il y a également celui qui vous chauffe les oreilles, c'est Guillaume Meurice.
C'est moi ça. Je vais vous parler privatisation aujourd'hui. En gros, ce qui nous pend tous au nez, on va tous être privatisés. Un jour, Alex, vos blagues de tub seront cotées en bourse. Voilà. Consécration.
Investissez mon pote.
Et logique en même temps. Le rire de Juliette sera une valeur refuge, hein, alors que pour l'instant, on s'en sert pour éloigner les pigeons, essentiellement. Et pour l'instant, le gouvernement s'occupe plutôt de la Française des Jeux. Alors ça, vous en avez entendu parler, parce que si vous écoutez France Inter, c'est toutes les 3 minutes qu'il y a un spot de pub. Hein, il y a moins de pubs pour le film de Polanski, j'ai l'impression, en ce moment. Hein, on n'aurait pas encore eu d'enfant violé par un tac au tac, je suppose. Mais alors, il n'y a pas du tout de pub pour le référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Et c'est bien dommage, ça m'intéresse, parce qu'on vend un truc qui rapporte à tout le monde. Alors, je suis allé voir les Françaises et les Français qui ont les moyens de jouer en bourse, ça c'est important. D'ailleurs, on va commencer par un petit point là-dessus, parce qu'on a perdu Jean-Yves Courtial. On n'a pas de nouvelles, avant il faisait la bourse. Mais Charlie, de rester avec vous, on parle de Jean-Yves Courtial.
Il se fait l'image avec l'enfant.
Mais oui, mais Jean-Yves, c'est important quand même. On l'embrasse, Jean-Yves, s'il nous écoute. Allez, cœur avec des Dow Jones. Allez, je vous rattrape le coup, un petit peu de bourse.
Je boursicote, alors, donc je connais un peu le sujet. Il va y avoir un coup de torchon, comme il y a tous les 10 ans, quoi. Bon.
Une crise, quoi.
Ah, une crise en bourse. Bon, enfin, ça, je pense pas que ça intéresse le français moyen. Hein.
S'il se fait expulser de sa maison à cause de ça, peut-être ça l'intéresse.
Quoi. Oui, non, mais vous voyez en ce moment ce qui se passe. Hein, en bourse, c'est l'euphorie.
Bon. Ouais, c'est l'euphorie, hein.
Hein, en bourse, oui.
Ouais. Bon. Est-ce que vous-même, vous êtes euphorique?
Non.
Non, c'est bien s'il semblait. Non. On n'est pas sur une euphorie de maboule, mais voilà, on est quand même bientôt sur un krach boursier. Youpi, hein. Donc c'est mieux de confier une entreprise publique au privé. Moi, c'est pareil, quand je veux aider un aveugle à traverser la rue, je lui pète les tibias avant. Ça, c'est toujours une très bonne idée que je conseille. Alors cette dame à présent, elle est également favorable aux privatisations. Mais pourquoi?
Parce que l'État n'est pas banquier. L'État est là pour gérer la France, mais pas gérer l'argent.
Mais là, ils vendent pourquoi?
Pour gagner de l'argent, pour se renflouer.
Est-ce que ça ne contredit pas ce que vous avez dit, justement?
L'État est là pour gérer notre argent.
Voilà, ouais, alors il n'est pas là pour gérer l'argent, mais quand même, il est là pour gérer l'argent, hein, si on veut résumer, voilà. Et je vous rappelle que l'argent public, c'est bien pour renflouer les banques, notamment en cas de crise. Si les pandas s'appelaient Société Générale, par exemple, ils n'auraient pas de soucis, ils ne nous feraient pas chier avec leur disparition. Hein, ça spéculerait tranquille, détendu du bambou. Mais est-ce que, au final, comme pour les autoroutes, ce n'est pas une connerie de vendre au privé?
Au contraire, l'État va en tirer un max de profit.
À court terme, mais à long terme?
À long terme, c'est pas à l'État de diriger des entreprises.
Et la radio publique, alors?
La radio publique, elle doit coûter beaucoup d'argent, c'est pas une très bonne chose.
Alors ça, je suis bien d'accord avec ça, ça coûte énormément d'argent public. Et l'argent public, voilà, le gaspiller comme ça, c'est pas bien. C'est ce que dit Dominique Seux tous les matins, d'ailleurs, avec de l'argent public. Et cette autre dame, à mon avis, elle écoute pas mal Dominique Seux.
Aéroport de Paris, j'estime que ça serait mieux géré si c'était une entreprise privée, voilà.
Pourquoi alors?
Pourquoi ? Parce que chaque fois que l'administration se met quelque part, c'est le bordel.
Mais dans tous les domaines ?
Dans tous les domaines.
Mais dans presque. Le domaine de l'éducation ?
L'éducation aussi. Laissez les collèges privés. Tenez, le seul collège privé.
Mais il faudrait tout privatiser, vous pensez ?
Oui. On n'est plus en Union soviétique. Elle s'est écroulée. Je ne comprends pas que les gens ne voient pas le résultat du communisme. En France, nous sommes le dernier pays communiste.
Vous pensez qu'on est un pays communiste, là ?
Oui.
Ah bah putain, bah prévenez, les mecs ! J'étais pas au courant. Pourquoi je suis jamais au courant des trucs cool, moi ? J'avais bien remarqué que le camarade Castaner, il aimait bien la vodka. Ça, j'ai remarqué, mais j'avais pas fait le lien. Un gouvernement de bolcheviques. Muriel Pénicoco, évidemment. J'aurais dû m'en douter. Putain, elle a raison, cette dame.
La France est le dernier pays du monde communiste.
Mais qu'est-ce qu'il y a de communiste en France ?
Tout, l'État a la main mise sur tout. Et tout, et nous vivons dans le régime des fonctionnaires, chacun touche sa dîme, mais et plus personne ne fout rien.
Mais alors ça veut dire que c'est une dictature communiste.
Oui.
Macron, ça va lui faire bizarre d'entendre ça quand même.
Mais c'est pas Macron. Macron, c'était déjà comme ça avant lui. Et Macron et Sarkozy, ils ont essayé de lever le joug. Mais ils n'y sont pas arrivés.
Ben, c'est vrai, on a une pensée pour eux d'ailleurs, ils sont tombés au combat. Les Solzhenitsyn, hein, comme on les appelle, ils ont résisté au communisme. Ils ont tenté de casser les murs du goulag, qu'on appelle, je rappelle aujourd'hui, le Pôle emploi, la CAF, l'hôpital public, et même la Sécu, qu'il faudrait privatiser aussi, hein, n'est-ce pas madame ?
Mais bien sûr que chacun s'assure et soit couvert pour ce qu'il paye. Et qu'en plus, on sert
d'assurateur. Mais ça veut dire que ceux qui n'auront pas les moyens de payer, ils seront moins bien soignés.
Ils se mettront peut-être à travailler.
Et voilà. Allez, tout simplement, au boulot, les feignasses. Hein, au moins, comme ça, ils n'iront pas signer le référendum contre la privatisation d'Aéroport de Paris sur référendum.intérieur.gouv.fr. Hein, faut être motivé un petit peu quand même.
J'ai pas bien entendu.
Non, je préfère pas faire de pub pour référendum.intérieur.gouv.fr. Moi, j'ai eu le temps de le faire. Donc, vous voyez, il faut que les gens travaillent. Il faut pas qu'ils aient le temps de faire ça. Parce que continuer à savater le secteur public, le gouvernement n'est pas prêt de s'en priver.
Merci Guillaume Meurice, merci. Il est 17h43 à Paris et 11h43 à Cuba, pays ultra-libéral par rapport à la France. Vous voulez dire quelque chose,
non,
Alex ?
Je voulais demander à Guillaume s'il avait quand même trouvé des gens qui étaient contre les privatisations. Ou
pas beaucoup, mais j'ai essentiellement ciblé les lecteurs des Échos et les Figaro. J'étais devant un kiosque à journaux.
Le mec est
tout ce qui était Luma, tout ça, j'ai pas demandé.
Ariane Massenet est avec nous. On va aborder cet autre sujet avant d'écouter la chronique de Juliette Arnault. France Télévisions veut 50% de femmes réalisatrices dès l'année prochaine. C'est-à-dire dans un mois. Pour l'instant, bah oui, c'est ça, à partir de 2020, elle a dit. Donc. Pour l'instant, les séries diffusées sur le service public sont réalisées à 82% par des hommes. La présidente de la télévision publique, Delphine Ernotte, impose des quotas de femmes, co-organisées avec le CNC, Centre National du Cinéma, et le collectif 50-50 qui œuvre pour la parité au cinéma. L'histoire est en train de changer de point de vue.
Je comprends pas pourquoi on met des scènes d'amour partout. Voilà, je trouve que ce serait beaucoup plus fort de le suggérer symboliquement.
Symboliquement, c'est-à-dire, Julie ?
Je sais pas, moi. Une rivière qui coule, des petits animaux qui se courent après dans les bois.
Ah bah oui, c'est sûr que le public préférera avoir de la paix qui se renifle le cul plutôt que Julie Gayet et Joey Star en train de faire l'amour.
C'est Julie Gayet et Grégory Montel dans 10%, la série de France 2. Ariane Massenet, durant votre carrière à la télévision, est-ce qu'il vous est arrivé de travailler avec beaucoup de réalisatrices ?
Non.
Ou c'est, non ?
Non, zéro.
Ah, zéro,
non,
carrément.
Zéro. Non, j'ai pas le souvenir. Sur le Grand Journal, non. Sur On ne peut pas plaire à tout le monde, non plus. Non. Sur toutes les émissions sur lesquelles j'ai travaillé, il n'y a jamais eu de femme. Mmh. Mais c'est vrai que moi j'ai une amie qui vient de rentrer comme réalisatrice sur les feuilletons du service public, les feuilletons de 30 minutes, vous voyez. Et elle me dit qu'elle avait été reçue, ça fait à peu près un an, elle me dit j'ai été reçue, mais avec des kalachnikovs. C'est-à-dire que c'était terrible parce que j'étais une femme. Hein. C'est-à-dire avant même d'avoir montré ce que je savais faire, le fait d'avoir été nommée entre guillemets réalisatrice de cette série, ça a été, elle me dit, ça a été extrêmement difficile.
C'est-à-dire qu'il y a un déficit, on sent un déficit de légitimité quand le quota vous a imposé.
Absolument.
C'est ça qu'il faut batailler.
Ouais, ouais.
Alors déjà, il faut batailler quand on est une femme, mais en plus quand on est une femme imposée par quota, il faut doublement batailler.
Ça commence à faire lourd. Hein.
Alors la pièce dans laquelle vous jouez, elle est écrite, mise en scène par votre sœur, vous jouez dedans, ces trois femmes, Alex Vizorek, ça c'est un sujet pour...
Mais moi j'ai posé la question à Daroussin quand il est venu par rapport à Art et lui demander si c'était possible de l'imaginer jouer par trois femmes, et est-ce que vous pourriez imaginer cette pièce-ci jouée par trois hommes ?
Absolument,
parce
pour
que
le coup.
Malgré tout, les thématiques sont, j'ai l'impression, et la façon de l'aborder, sont féminines.
Oui, façon féminine, oui, parce qu'au début de la pièce, on enfile quelques clichés sur... Enfin, c'est même pas des clichés, mais c'est un peu ce qu'on se raconte. Hein, trois copines qui se retrouvent une fois par an, elles vont se raconter un peu des conneries, enfin, ce qu'on se raconte dans des dîners de filles au début. Puis après, on va parler des choses plus sérieuses. Donc là, effectivement, on parle de chirurgie esthétique, on parle de régime, de gluten, etc. Effectivement, je pense pas que trois mecs de 50 ans, quand ils se retrouvent, vont parler de ça.
Oh, ils vont parler foot.
Oui, non, mais c'est ça. Il faut juste transposer les sujets. Ils vont parler de trucs complètement cons. Et puis ensuite, ils vont peut-être parler des choses un peu plus profondes. Donc, la pièce pourrait être jouée.
La sororité de femmes qui se connaissent depuis 40 ans,
ouais.
Elle est la même que la fraternité chez des hommes.
Oui, pensez. Je pense. Je pense que ça pourrait être trois femmes de 20 ans, trois mecs de 30 ans. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'une personne a dit sur la pièce. Là, le premier jour où on a joué, a dit ça m'a fait penser au cœur des hommes, mais avec trois femmes. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que ça peut toucher, ça touche tout le monde. L'amitié touche tout le monde, pour le coup, il n'y a pas de restriction. Elle est peut-être plus profonde chez les femmes passées un certain âge, quand les enfants sont partis, quand le mari peut-être est parti, ou alors elles ont quitté leur mari. Il y a une sorte de solidarité. La famille est une valeur refuge, mais je pense que l'amitié peut être aussi, au bout d'un moment, une valeur refuge sur les gens qu'on connaît depuis longtemps. On les connaît par cœur, on est comme des sœurs. Quoi.
Et ça peut durer longtemps. Hein. J'ai vu ma mamie ce week-end, 97 ans. Elle était au téléphone avec ses deux copines de 95 ans.
Mais c'est génial,
On vous souhaite que ça dure jusque-là pour écrire plusieurs pièces. Ça s'appelle Comme des sœurs, théâtre de la scène parisienne. Ariane Massenet, à côté de vous, il y a Juliette Arnaud qui, aujourd'hui, vient nous proposer un conseil lecture.
Belle mauvaise humeur.
Oui, non, c'est passé.
Ah, bah, je suis contente.
C'est les brèves, ça.
Oui, non, je crois que c'est la brume du perche. Avoir le cœur bien accroché. Alors, c'est une nécessité pour le livre dont je vais vous parler. Et moi, le mien de cœur, il n'est pas bien accroché. Je fais partie des gens qui, s'ils pensent à leur cœur comme à un organe musculaire creux qui pompe le sang vers les vaisseaux sanguins et les cavités du corps à travers des contractions rythmiques, sont convaincus qu'il, leur foutu cœur, est en train de s'arrêter instantanément. Or, ce livre s'ouvre sur une splénectomie, ablation de la rate, en public, oui, on est à la fin du 19e siècle, pratiquée par le chirurgien Jules Péan, dans le public fourni, qui devient tout pâle, s'évanouit ou vomit, il y a un peintre impassible qui dessine. L'anatomie, c'est une fascination commune et aux médecins et aux peintres. L'anatomie, le principe de la vie, du corps, le peintre en bouillonne et ne voit la vie dans les corps que comme un bouillonnement. Le corps, le corps, le corps. Et c'est cohérent, cette séance de splénectomie live, car sinon on ne peut pas évoquer ce peintre-là, sinon on passe à côté de lui. Sinon, ce peintre-là, il est surtout né Henri de Toulouse-Lautrec, fils du comte Alphonse-Charles de Toulouse-Lautrec-Montfa et d'Adèle Zoé Tapier de Sélérand. Bon, on n'est pas chez les pauvres. Un peintre classique à présent que le temps est passé, ses toiles sont dans les musées les plus importants, au Grand Palais en ce moment par exemple. Au départ, il y a un petit garçon que sa maman, de la riche noblesse albigeoise, appelle « petit bijou ». Mais dans la vie, il n'y a pas que les mamans aimantes, il y a les autres. Et les autres, comment voit-il petit bijou quand il a cessé d'être un petit garçon ? Je cite l'auteur, « cette silhouette courtaude, ce visage boursouflé, ses yeux humectés, les grosses mains, le gros nez, les grosses lèvres, partout où il passe, Lautrec fait sensation et subit le regard intrusif, moqueur, méchant des hommes, et celui, plus pénible encore, écœuré, des femmes. 1m52 ». C'est ainsi que Henri de Toulouse-Lautrec paye l'addition de la consanguinité de son ascendance. Il est riche, mais il est contrefait. Henri de Toulouse-Lautrec prend des cours de peinture à Paris, à Montmartre. Henri de Toulouse-Lautrec devient l'ami du grand, maigre et austère Van Gogh. Henri de Toulouse-Lautrec aime boire sans nuance et faire l'amour sans beaucoup plus de nuance. Henri de Toulouse-Lautrec devient Lautrec. Juste Lautrec. Non, pas juste Lautrec. C'est trop étroit pour ce type littéralement possédé par ce qu'il appelle son serpent. Ce désir de rendre compte du bouillonnement de la vie. Le satané serpent qui a toujours le dernier mot dans la vie de Lautrec, même lorsque quelqu'un ou quelqu'une, comme Suzanne Valadon, lui brise le cœur. Et malheureusement, le cœur de Lautrec est palpitant et pris facilement. Lautrec, en sus de son petit corps tordu, a le cœur d'une grisette. Le décor, Montmartre, en haut, Pigalle, plus bas, le peuple, le moulin de la galette, Bruant et son accordéon, les filles, danseuses, chanteuses, modèles, putes, au nom explicite, la goulue, grille d'égout, Nini patte en l'air, mais aussi Valentin désossé. Le moulin rouge, pas du tout vu par Baz Luhrmann, le vrai, et le trait qui est comme un poisson dans l'eau, enfin plutôt comme un cochon dans sa bauge. Parce qu'ici, la nuit, c'est la vraie vie, la vie foutraque. On passe en quelques heures de l'homme de convention à l'animal dépravé, et Lautrec boit autant qu'il observe, dessine, crayonne, note et boit sans modération. Et quand ça n'est plus suffisant, quand il a fait le tour, quand le corps, la vraie vie, la foutraque n'est plus assez près, assez proche, il part vivre 8 mois dans un bordel parisien, au milieu et avec les filles. Lautrec et les corps des autres n'en finit pas d'abîmer le sien déjà abîmé dès l'origine. Et l'auteur, Mathieu Mégevant, lui, n'en finit pas de poser un regard doux sur ce petit être énorme et crapoteux. Et quand les autres, effarés de le voir s'abîmer, essaye de lui demander des explications. Il lui met cette réflexion dans la tête, à Lautrec, comment expliquer une possession à ceux que rien ne hante. Mathieu Mégevant l'explique. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud.
Oui, évidemment, aller au Grand Palais parce qu'il y a une exposition formidable sur Lautrec et peut-être vous...
Mais moi, oui, je pense que c'est une bonne chose d'avant. Je pense qu'on rentre encore mieux dans Lautrec en lisant ce roman qui n'est pas une biographie. Qui est un vrai roman écrit par un vrai écrivain.
Et rappelez donc les références.
Il s'appelle Mathieu Mégevant, je crois qu'il est suisse, personne n'est parfait, et c'est chez Flammarion, et le bouquin s'appelle Lautrec.
Petite anecdote, quand Lautrec organisait des dîners, ça doit vous plaire, il mettait des carafes d'eau sur la table, il mettait des poissons rouges dedans, pour que les gens n'aient pas envie de boire de l'eau. Et ça, c'est quand même mignon.
Ces petits bijoux.
Ah, ces petits bijoux.
17h52 sur France Inter, en compagnie d'Ariane Massenet, on aborde ce troisième sujet. Mamie a connu la guerre, les privations et les tickets de rationnement. Ce qui fait d'elle une pionnière de l'écologie, nous explique Le Monde dans son supplément week-end intitulé L'Époque. Qui veut réduire son empreinte carbone adopte peu ou prou aujourd'hui le mode de vie des mémés à blouse de la France rurale, précise l'article. Allez, vas-y mémé, montre-nous comment il faut faire.
Le dîner. Désormais, plus de gâchis, nous finirons les restes.
Attends, t'es en train de mélanger de la brandade de morue avec des betteraves et des épinards?
Ben oui, je mélange tous les restes, oui, c'est le principe. Un coup de crème et hop, au four. J'appelle ça le fourzitou.
Quoi ?
Fourzitou. C'est une recette de ma tante.
L'endroit où on mélange tous les restes, ça a déjà un nom, tu sais. C'est une poubelle.
Valérie Bonneton, dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. Vous, Ariane Massenet, quelles seraient les choses, les gestes sur lesquels vous seriez revenue ? Qui seraient des trucs, je sais pas, quand vous êtes dans le Perche, par exemple.
Oui.
Alors, dans la brume.
Est-ce qu'il y a des trucs? Je ne parle plus pareil. C'est pas pareil. Déjà, je ne parle pas pareil. Non, sinon, le faire des confitures. Plus personne ne fait de confitures à Paris. Ouais. Enfin, en même temps, c'est pas très simple de faire des confitures à Paris. Il faut être équipé. Non, oui.
Il y a des gestes sur lesquels c'est comme si vous reveniez en arrière à ce que faisait votre grand-mère. Peut-être vos grand-mères.
Oui, certainement. Mais justement, voilà, faire des confitures, ça ne me serait pas venu à l'idée il y a quelques années. Alors, est-ce que c'est, cette vague écolo bobo entre guillemets, moi j'aime bien, moi je suis assez nostalgique, je suis assez un peu mélancolique, j'aime bien les vieilleries, j'aime bien les vieilles personnes et j'aime bien me souvenir, j'aime bien voilà tout ça. Donc oui, je suis un peu, je suis une vieille personne, je crois. Donc, c'est-à-dire que je suis une vieille personne inside.
Coming out.
Je suis une vieille personne inside. Outside, je me maintiens un peu, mais inside, je crois que je suis une vieille personne.
Mais donc, coucher avec des Allemands, c'est écolo alors.
Coucher avec des Allemands.
Que nos grands-mères faisaient.
Mais nos grands-mères n'ont pas couché avec des Allemands.
Non,
hein,
j'ai pas compris.
Pas toutes.
Pas les miennes, merci.
Non. Oui, bah, l'échange culturel, ça vous parlait pas, mais ça dépend des familles.
Qu'est-ce qu'elles vous ont transmis, vos grands-mères, Ariane Massenet?
La gaieté, je pense. C'était des deux côtés, d'ailleurs. Des femmes extrêmement gaies. Et les deux aimaient bien tout ce qui a un lien avec la gastronomie.
Ah.
Donc faire de la bonne bouffe et
donc les épluchures fines.
Les épluchures fines.
Avec un économe pour rien gâcher.
Oui, ah bah oui. Bah comment vous voulez le faire, vous, sinon? Au couteau? Beaucoup plus chiant.
Plus chiant. Vive l'économe.
Ah bah oui, ne l'engueule pas quand même.
Non, non, j'engueule pas.
Enfin,
Ariane Massenet, si on employait toute cette gaieté transmise par vos grands-mères pour jouer dans un sketch.
Et oui, en fin d'émission, on écrit un sketch sur l'actualité pour y intégrer l'invité.
On vous a donné le rôle de Séverine Servat de Rugy.
Ça, c'est chouette.
Mais oui, parce qu'elle va sortir un livre sur l'affaire. Tout est
l'affaire
tout
du homard. Alors, un livre de cuisine, bien sûr.
Eh oui, mais si vous vendez le début du sketch, on est. Ouais. Bon, c'est possible que ça démarre comme ça. Mais bon, l'éditrice, c'est Charline. François de Rugy, c'est Guillaume. Et vous êtes Madame la Nouvelle Écrivaine.
Alors comme ça, vous voudriez que j'édite votre livre, Madame de Rugy?
Voilà, j'y explique tout.
Oui, c'est un livre de cuisine, j'imagine?
Livre de cuisine.
Non, bah, pardon, mais je vois un chapitre sur le homard.
Ah ok, vous n'aimez pas les crustacés?
Ah bah moi non plus, très peu pour moi, je suis intolérant.
Bon, alors je vois aussi un chapitre sur les grands vins.
Bah je n'allais quand même pas écrire sur les vins bio.
Bah non, l'écologie, on en a soupé. Hein. Non,
excusez-moi madame, mais c'est qui ce monsieur qui intervient tout le temps là?
Lui? Bah c'est mon mari, c'est François de Rugy.
Oh là là! Oui, bien sûr, ok, maintenant que vous le dites. Oui.
Ça m'arrive souvent parce que j'ai un gros charisme.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Oui.
J'ai une femme vraiment formidable.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, revenons à nos moutons. Hein.
Je dirais même plus, revenons à nos moutons Rothschild.
J'ai une femme vraiment spirituelle.
Je te rappelle que je suis journaliste à Gala.
Ah, exact, c'est quand même autre chose que Mediapart.
Oui, alors, je vois aussi sur vos trois chauffeurs là, un chapitre dans un livre de recettes. Qu'est-ce que...
C'est un chapitre contre la grande précarité.
Ah. J'ai une femme vraiment généreuse.
Je vois, oui. La grande précarité du petit personnel.
Oh, mais pas du tout, je parle de celle des ministres.
Ah. Oui, j'ai tellement souffert.
Ah, alors, j'imagine que c'est la même justification pour la garde-robe. Alors.
Oh, on n'allait quand même pas s'habiller chez Maïus.
Bah, alors, pareil pour la rénovation du logement de fonction.
Bah, vous auriez préféré qu'on habite dans un taudis.
Ah non, le bilan carbone des taudis est épouvantable.
Mais vous voyez comme il est passionné d'écologie. Ah bon, donc si je comprends bien, c'est plutôt un livre pour défendre le monsieur qui parle là derrière vous. Là.
Alors, je parlerai plutôt d'un témoignage bouleversant pour défendre un homme innocent, madame.
De qui elle parle là?
Bah, de toi.
Ah ben oui, c'est moi, évidemment, bien sûr. Oui, oui.
Alors, vous éditez mon chef-d'œuvre ou non?
Écoutez, comme vous aimez l'écologie, je pense qu'on va convenir ensemble qu'on va pas gaspiller de papier. Hein. Ariane Massenet, merci. Ben voilà, c'est les comédiennes dans l'âme.
Voilà.
Ça y est, direct, paf au feeling. Sur scène, on vous retrouve Ariane Massenet dans Comme des sœurs, écrit et mis en scène par Béatrice Massenet, donc votre sœur, avec vous bien sûr, avec Alexandra Simon et Marie Parouti. C'est au Théâtre de la Scène Parisienne jusqu'au 31 décembre, du mercredi au samedi à 21h, et ensuite en tournée dans toute la France pour rencontrer les maires,
tous les maires,
boire des petits villages, bien manger, etc.
Oui.
Et la rencontre des Françaises et des Français.
Oui, madame.
Contact, madame.
Oui, madame.
Merci Ariane Massenet, merci
beaucoup.
Les amis, Juliette, merci Hippolyte, Alex et Guillaume. Bien demain sûr. On se retrouve avec, pour inviter, l'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert.
Oh mon Dieu, Louis-Philippe!